Bonjour, bonjour Olivier Guersan. Bienvenue à Radio Economica.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation sur la radio de la DG Traduction pour nous parler de concurrence, le droit, la stratégie. Autrement dit, comme vous êtes à la tête d'une DG qui est une des grandes DG de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne, puisque c'est une des rares politiques où les compétences européennes sont exclusives. J'aurais aimé vous demander, à titre d'introduction, un peu comment, en quelques mots, vous définissez les objectifs du droit de la concurrence européen. Est-ce que, parce qu'il y a un vrai débat actuellement, on parle d'abord de défense du marché intérieur, de protection des consommateurs, ou de défense des intérêts européens? La question est large, mais comment est-ce que vous nous profilez cette politique?
La politique de concurrence européenne, à un premier niveau, elle a les mêmes objectifs que toutes les politiques de concurrence dans le monde, c'est-à-dire, par le biais du processus concurrentiel, de favoriser l'allocation la plus efficace des ressources en termes de maximisation de la production, tant du point de vue des volumes produits, que du point de vue de l'innovation. Et du point de vue des prix. Le standard classique à l'aune duquel se jaugent les politiques de concurrence, c'est le surplus du consommateur, qui n'est pas forcément un surplus financier, mais un surplus également en bien-être, en qualité des produits, en innovation technologique, etc. Et puis, la politique de concurrence européenne, elle a une dimension spécifique, qui est que nous ne sommes pas un État unitaire. Nous sommes une construction originale dans laquelle des États qui sont restés souverains ont mutualisé à minima quelque chose de très important qu'on appelle le marché intérieur. Et donc la politique de concurrence européenne, cette fois-ci, elle a un objectif tout à fait particulier qui est de consolider le marché intérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à peu près les seuls au monde à avoir un droit des aides d'État. Il n'existe aucun droit de la concurrence ailleurs dans le monde, et il montre bien cette dimension marché intérieur, puisque c'est un peu notre OMC interne à l'intérieur de l'Union pour éviter que les États membres qui ont les poches plus profondes ne distordent la concurrence à l'intérieur de l'Union au profit de leurs entreprises et au détriment des entreprises des autres États membres. Donc c'est un peu tout ça. Et puis évidemment, le droit de la concurrence, c'est le droit de l'intervention de la puissance publique dans l'économie. Donc, c'est le droit de la limitation du pouvoir des grands trusts, qu'ils se soient individuellement, parce qu'ils ont énormément de pouvoir de marché, vous pouvez penser à Google aujourd'hui ou à Apple, ou que ce soit par des ententes secrètes, pour acquérir un pouvoir excessif sur l'économie. Et donc, d'une certaine façon, à la limite, ça touche à des questions plus larges du type de société dans laquelle on veut vivre et de démocratie.
Alors, j'y reviendrai plus tard. Donc, bah, la politique de concurrence, c'est un acquis européen considérable qui touche, et vous l'avez un petit peu suggéré, à toutes les politiques. Depuis l'énergie, on pense à l'affaire Gazprom en 2015, au transport, à la fiscalité. Et on a l'impression que c'est une politique qui suscite des demandes, des attentes, bien entendu des critiques croissantes, notamment pour adapter cette politique de concurrence dont on dit qu'elle est peut-être hostile à, ou disons contraire à des champions européens. On pense à l'affaire de la fusion Alstom-Siemens en 2019, que la Commission avait retoquée, et ce qui avait provoqué des mécontentements, notamment des ministres de l'économie français-allemands. Alors, est-ce que véritablement on peut dire que cette politique de concurrence jette des ombres sur l'ambition d'une industrie européenne qui pourrait rivaliser avec les géants chinois?
Absolument pas. Absolument pas. La question qui, d'ailleurs, je vous renvoie aux très très nombreuses déclarations et discours du commissaire Breton sur ce sujet, où il ne manque jamais de dire, et je simplifie un peu son propos, mais qu'il n'y a pas de compétitivité en s'abritant de la concurrence. Personne n'a jamais gagné les Jeux Olympiques en évitant soigneusement de rencontrer ses concurrents dans les 4 ans qui précèdent les épreuves. Ça n'existe pas. Se confronter aux autres, c'est le moyen de prendre conscience de ses faiblesses, de s'améliorer et d'être plus efficace. Et donc, cette idée que des champions européens, je vais revenir dans un instant, se bâtiraient sur des positions de monopole au niveau domestique européen, c'est une idée complètement folle. D'abord, ça veut dire qu'on est mieux préparé quand on est abrité de la concurrence. Et vous savez, si c'était vrai, le monde serait dominé par la puissante industrie soviétique. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Cette industrie, elle s'est effondrée. Et elle s'est effondrée parce qu'elle n'était pas confrontée à la concurrence. Très inefficace, des coûts beaucoup trop élevés, pas assez innovante. Et c'est à peu près ce qui se passe partout où on n'est pas confronté à une concurrence. Et puis, deuxièmement, prenons l'exemple Siemens-Alstom. Qui étaient les principales victimes de cette affaire? D'abord, les clients européens. On allait créer une position monopolistique sur les trains à grande vitesse pour une très très longue période, 20 ou 30 ans. Au détriment de qui? Ben, au détriment des opérateurs ferroviaires, évidemment, les clients, tous plus ou moins largement subventionnés par le contribuable. Donc, in fine, ce qu'on allait avoir, c'est des trains moins innovants, puisqu'il n'y avait plus la stimulation de la concurrence entre les deux principaux producteurs européens, plus chers, puisqu'ils étaient les seuls, au détriment de qui? Des finances publiques. Et puis les deuxièmes victimes, c'était qui? Ben, c'était les quelques concurrents européens, dont Talgo en Espagne. Parce que ce qu'on créait, ce n'était pas un champion européen, c'était un champion franco-allemand. Et d'ailleurs, je vous fais observer qu'en dehors de ces deux pays, on n'a pas eu des grands cris sur la décision de la Commission. Dernière considération sur ce point. Admettons pour un instant que c'est une certaine vertu de créer des monopoles en Europe au détriment du consommateur européen pour acquérir de la compétitivité mondiale. Mais ça postule que la rente de monopole extraite par ces entreprises des consommateurs européens, elle est utilisée pour être plus compétitive à l'extérieur. En d'autres termes, nous devrions avoir de moins bons produits plus chers pour que le reste du monde puisse profiter de meilleurs produits moins chers. Formidable, non? Et ça suppose aussi que ces entreprises vont effectivement faire ça avec la rente de monopole, plutôt que de la redistribuer à leurs actionnaires, qui sont souvent de grands fonds mondiaux ou des fonds de pension américains, et qui exercent une pression extrêmement forte à toucher des dividendes élevés. Et donc, si vous êtes prête à prendre le pari, ça me va très bien, le droit de la concurrence n'est pas ainsi structuré. Il repose sur le principe que nous avons un intérêt à ce qu'il subsiste de la concurrence sur le territoire européen. Moi, je ne suis pas préoccupé, et ce n'est pas dans mon mandat, de me préoccuper de la concurrence en Amérique du Sud. Ce qui est dans mon mandat, c'est la compétitivité de l'industrie européenne et le surplus des consommateurs européens.
La question qu'on pose souvent, c'est alors comment est-ce qu'il peut y avoir ou peut-il y avoir une politique industrielle européenne qui
Très
définit les
facilement.
prix?
Une politique industrielle européenne, elle va main dans la main avec la politique de concurrence. D'ailleurs, je vous fais observer qu'on vient d'autoriser le rachat par Alstom de Bombardier, sans aucun
Alors,
problème. Et
quelle est la
puis,
logique?
expliquez-moi en quoi, je vous prends un autre exemple. Nos amis français ont beaucoup crié lorsque nous avons imposé des conditions à la vente des activités nucléaires, cette fois-ci, du même Alstom à General Electric. C'est de la politique industrielle, ça? C'est un champion européen? Ah, non. Sans compter que par la suite, d'ailleurs, General Electric n'a tenu aucun des engagements qu'ils avaient pris. Pour ça, je note qu'on a autorisé cette opération avec des conditions. Donc, il n'y a aucun problème à avoir. Encore une fois, je vous renvoie aux très nombreux écrits, notamment une très bonne série cet été dans Les Échos, et discours du commissaire Breton, il est très clair là-dessus. Il n'y a pas de politique industrielle efficace sans concurrence effective. C'est clair.
D'accord. Et alors, quelle peut être, c'est un peu complexe comme question, quelle peut être la contribution de la politique de concurrence à une influence européenne? Et pour évoquer les tribunes de M. Breton, la contribution à l'autonomie stratégique de l'Union européenne?
Alors, ça, c'est une question très intéressante. Ce n'est pas son mandat à la politique de concurrence. Le mandat, il est tel que je l'ai défini en réponse à votre première question. Maintenant, la politique de concurrence européenne, ce n'est pas un satellite qui tourne tout seul dans le vide. Il y a des raisons pour lesquelles les pères fondateurs ont décidé de confier à la Commission et pas à une agence indépendante la politique de concurrence. C'est parce que c'est technique. Mais ce n'est pas seulement technique, c'est une des politiques de l'Union au service des objectifs généraux de l'Union. Et donc, comme dans les États membres, comme aux États-Unis, cette politique, évidemment, elle s'inscrit dans le cadre des objectifs généraux de l'Union et elle essaie d'y contribuer dans la limite que lui permet, que lui permettent les traités. Et cette limite est grande, parce que comme tout standard de droit bien fait, les standards de droit de la politique de concurrence, c'est-à-dire les articles 101 à 106 du traité, à 107, pardon, 108 même, du traité, sont des articles qui permettent une grande variété de politiques différentes. Un droit de la concurrence, mais des tas de politiques possibles. Laissez-moi vous donner un exemple. Moi, quand j'étais un jeune fonctionnaire, c'était il y a très longtemps, au début des années 90, 90, puisqu'on est en Belgique, l'article 106 du traité, qui à l'époque était l'article 90, qui est l'article sur les monopoles publics et les droits exclusifs et spéciaux, était interprété depuis l'origine des communautés européennes comme permettant les monopoles commerciaux, notamment dans le gaz, l'électricité et la téléphonie. Et puis à la fin des années 80, l'Union européenne a décidé de se doter d'une politique de libéralisation. Et l'article 106, il est devenu un article qui a été interprété comme ne permettant pas les monopoles nationaux en la matière. Vous avez toute une longue série de jurisprudences de la Cour, de la Commission en la matière. Ça vous montre bien que le droit, c'est un instrument contingent. Alors là, c'est un exemple un peu extrême. Ce n'est pas possible. Mais avec un même droit, on peut mener beaucoup de politiques différentes. Pour ce qui concerne l'autonomie stratégique, il faut bien dire que pendant des années, jusqu'à assez récemment, ce n'était pas une préoccupation de l'Union européenne. On le voit très bien dans la politique, notamment la politique commerciale que nous avons menée. Et ça l'est devenu. Et donc, ma direction générale a préparé un livre blanc sur les subventionnements publics par les entreprises non européennes actives sur le marché intérieur, afin de nous donner les moyens de contrôler ces subventionnements publics et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives. Par exemple, l'exclusion des marchés publics. Ce livre blanc, il est en consultation publique à l'heure où je vous parle. Donc, les choses bougent et lorsque les choses bougent, on se dote de nouveaux outils qui permettent de mettre en musique la politique dont nos instances supérieures ont souhaité nous doter.
Donc c'est un outil, ça n'est pas lorsqu'il y a une réflexion sur l'autonomie stratégique, donc quelque part c'est une évolution relativement récente, vous dites la politique de concurrence se reprofile. Et vous nous invitez à voir les documents qui sont mis en consultation sous la forme d'un livre blanc. Donc qu'est-ce que ça doit profiler ce livre blanc? Ça veut dire qu'on lance une réflexion de moyen terme?
Non, d'assez court terme. En fait, nous proposons de nous doter d'un nouvel outil législatif qui permettra deux choses. Premièrement, au-dessus de certains seuils, il obligera les entreprises non européennes actives sur le marché européen à notifier à la Commission les subventionnements publics dont ils font l'objet, de la même manière que ces notifications sont obligatoires pour les entreprises européennes. notamment à l'occasion d'acquisitions d'entreprises européennes. Il est hors de question que nous continuions à laisser avec les bras ballants des entreprises subventionnées par des puissances étrangères acheter nos start-up technologiques, nos biotech à fort potentiel de croissance, ou nos entreprises, comme on a vu récemment en Allemagne, très actives dans la production avec de nouvelles technologies de vaccins. Donc, lorsqu'il y a des acquisitions, on vérifiera si elles ne sont pas subventionnées par un État étranger. Et puis, un contrôle plus général et analogue au contrôle des aides d'État. Évidemment, le défi, ça va être d'avoir quelque chose d'efficace et qui ne soit pas trop consommateur de ressources à Bruxelles. Et pour ça, il faudra évidemment s'appuyer sur les autorités nationales des États membres, comme nous le faisons déjà dans d'autres domaines du droit de la concurrence.
D'accord. Et donc, une obligation pour ces investisseurs étrangers actifs dans le marché intérieur de notifier, et s'ils ne le font pas, je suppose que l'Union européenne a les moyens d'aller vérifier.
Oui, on a par ailleurs un droit anti-subvention. Vous savez, on se plaint beaucoup des Américains parce qu'ils exportent leurs normes et en font des applications extraterritoriales. J'ai peur de dire que dans certains cas, nous aussi. C'est le lot des grandes puissances. Donc, et la preuve, c'est que par exemple, en matière de concentration, on nous demande effectivement d'être beaucoup plus laxiste avec les concentrations européennes, en même temps qu'on nous demande d'être beaucoup plus dur avec les concentrations non européennes. Observez que les standards de droit permettent beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure, mais rarement d'avoir un double standard aussi différent selon l'origine des entreprises. Mais bon, toujours est-il que nous avons ce pouvoir de projection. Nous avons interdit dans le passé des fusions entre entreprises qui n'avaient même pas d'établissement en Europe. Simplement, elles étaient puissantes sur le marché européen. Si vous pensez à Boeing, par exemple, Boeing n'a pas une structure juridique en Europe, pas une.
D'accord. Et donc, dans ces cas-là, on examine une analyse économique, bon, ça c'est un peu votre spécialité, l'impact de firmes éventuellement non établies en Europe, mais qui ont un impact réel sur le territoire européen. On pense notamment au monde numérique, ce qui probablement va m'amener à évoquer une affaire qui passionne, qui est le cas Apple. Puisque nous avons donc des grands projets au niveau européen, créer des taxations numériques de manière à rétablir l'équilibre entre des acteurs locaux avec des établissements physiques et puis des acteurs purement numériques dont on ne sait pas trop où est leur empreinte. Alors, dans le cas Apple, on se rappelle que la Commission avait exigé que l'Irlande recouvre 13 milliards d'exemptions fiscales, et elle considérait que ceci était assimilable à des aides d'État illégales. Bizarrement, l'Irlande n'a pas voulu le faire, et tout ceci s'est terminé devant le tribunal à Luxembourg, qui a rendu un avis négatif mi-juillet, où d'ailleurs on avait manqué déjà pouvoir discuter comme nous le faisons actuellement. Enfin, mais cette affaire continue et elle passionne notamment parce que il y a une question d'autonomie fiscale et budgétaire de l'Union européenne. Où en est-on actuellement de cette affaire Apple?
Alors, votre question vient à point puisque nous avons fait appel de ce jugement vendredi dernier. Nous sommes lundi, donc il y a un jour ouvrable. Et nous avons fait appel de ce jugement parce que nous pensons que la Cour a commis un certain nombre d'erreurs de droit. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est que la Cour avait confirmé le principe. C'est-à-dire, la Commission peut est fondée à attaquer des systèmes fiscaux qui donnent des avantages discriminatoires à des entreprises. En l'occurrence, tout de même, un fait intéressant, sur l'année de référence, la première année en fait de la période de référence qui était 2011 dans la décision de la Commission, Apple avait généré 16 milliards de revenus en Europe et le système fiscal mis en place en Irlande avait conduit à définir la base taxable comme étant constituée de 50 millions. 16 milliards, 50 millions. Et le plus intéressant, c'est que les 15 millions 5, les 15 milliards 5 qui restaient n'étaient taxés nulle part, puisqu'elles étaient envoyées dans une entreprise qui n'avait pas de résidence fiscale dans aucun État du monde, pas les États-Unis. Donc c'était juste un espèce d'entreprise fantôme, puisqu'elle n'avait aucun salarié, vivant dans un État fantôme inexistant. Et nous pensons que la Cour, en regardant ce système de manière extrêmement étroite et en ne se préoccupant pas du tout de cet aspect des choses, a commis une erreur de droit et donc nous attaquons le juge. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles nous l'attaquons, c'est un peu long et technique, mais nous pensons que ce type de montage doit clairement être illégal dans l'Union européenne. Et nous pensons que les États membres doivent clairement recevoir ce message afin que ces pratiques ne soient plus possibles. Que plus de 90% des profits ne soient taxés nulle part, même pas aux États-Unis, où Apple est établi. C'est pour ces grandes entreprises qui génèrent des profits considérables, c'est au-delà du droit de la concurrence, c'est un problème de citoyenneté.
La citoyenneté des entreprises, notamment numérique, c'est une vraie question. Enfin, on imagine que les États membres ne sont pas forcément enthousiastes de ce. Enfin, on sait pour l'Irlande. Et est-ce que ça veut dire que cette décision, la ligne de la Commission européenne, doit être emblématique? Est-ce que ça va être. Expliquer, enfin, faudra voir ce que dit la Cour de justice, bien sûr, et c'est assez fréquent qu'il y ait un appel, hein, que la Commission...
Et c'est assez fréquent en matière d'aide d'État que nous le gagnions.
Voilà. Donc, est-ce que ça va être la fin du, ce qu'on appelle le dumping fiscal, dont je rappelle que il est aussi un enjeu pour le budget européen, puisqu'on a des ressources propres qui sont un petit peu en berne et qui ont fondu comme neige au soleil au fil des décennies. Comment est-ce que on peut anticiper que les États membres s'approprient et intègrent cette possibilité que des rescrits fiscaux soit catégorisé comme aide d'État illégal. Enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer un dialogue au-delà même de la dimension juridique, qui est encore à confirmer, comment est-ce qu'au niveau politique, au niveau du Conseil européen, on pourra mettre en œuvre cette clarification?
Vous savez, bon, d'abord, nous avons fait appel, mais nous avons perdu en première instance, nous pourrions perdre un appel. Je pense que nous gagnerons, je l'espère, mais il est possible que nous perdions. En toute autre cause, et même si nous gagnons, il ne faut pas non plus, peut-être curieux que ce soit moi qui vous dise ça, mais il ne faut pas exagérer le pouvoir de la politique de concurrence. La politique de concurrence, elle occupe l'espace quand il n'y a pas de direction claire. En matière fiscale, il n'y en a pas, et il n'y en a pas pour une raison, c'est que cette matière est une des rares qui soit restée à l'unanimité. Et donc le seul moyen de régler le problème que vous dites, le seul vrai moyen, c'est de passer la politique fiscale à la majorité qualifiée. La politique de concurrence, elle ne peut pas servir de substitut à ça. Elle peut corriger ici ou là les abus les plus flagrants, mais elle est à juste titre, dans une matière qui est au cœur de la souveraineté des États membres et de leur Parlement, dans un corset extrêmement étroit. Et l'exigence de preuve est extrêmement forte. Et donc, Pas toutes les situations indésirables pourront être corrigées par la politique des aides d'État, sans compter que c'est extrêmement long, c'est extrêmement intensif en ressources. Et donc, le seul vrai moyen de régler cette question est d'avoir une équité fiscale dans le marché unique qui rétablisse d'abord une concurrence équitable, mais également, vous l'avez dit, un juste retour aux finances publiques, puisque ces entreprises, notamment dans le monde du numérique, utilisent largement des infrastructures payées par les contribuables. Le seul moyen d'obtenir ça, c'est de réformer la base juridique du droit fiscal européen. À terme, et évidemment, ça ne se fera que s'il y a un risque crédible de se faire sanctionner lorsqu'on abuse, comme dans ce cas. Parce qu'évidemment, si la Commission n'était pas fondée à attaquer ces systèmes fiscaux et ces rescrits sur la base du droit de la concurrence, pourquoi voulez-vous que les États membres ordonnent l'unanimité? L'unanimité, au cas particulier, elle protège le passager clandestin qui attire au prix d'une perte de substance fiscale colossale les volumes d'activité artificiellement sur son territoire national. Lui, il en retire plus de taxes que si ses entreprises étaient ailleurs, mais l'ensemble de l'Union est extrêmement perdante.
On a un chiffre, est-ce qu'on estime?
Je ne suis pas le directeur général de la taxe sud, il faudra que vous l'invitiez, mais.
Ça a déjà été fait, mais c'était il y a longtemps, il y a 2 ans. Donc, effectivement, une perte considérable de substance, mais certains disent il y a quand même un travail à faire en direction des opinions publiques, et ça, c'est extrêmement difficile, puisque par exemple, le citoyen irlandais ne s'est pas élevé pour dire, ah bah c'est vrai que 13 milliards, nous on trouve que c'est très bien, et en tant que citoyen irlandais, bah à la limite on serait très content que le système social, les infrastructures, etc. soient financés par ce surplus de ressources. Et là c'est un débat qui reste un peu, qui percole pas, quoi. Alors, j'imagine que la DG Concurrence n'a pas vocation à alimenter un débat avec les opinions publiques, mais c'est vrai que sur ce bien public collectif, hein, de l'Union européenne, c'est-à-dire retrouver des ressources pour les États, pour les finances publiques, pour les systèmes sociaux, on est un peu en retard. Peut-être une dernière question. Qui est dans le contexte actuel, vous pouvez nous rappeler peut-être les adaptations à faire ou déjà faites de la politique de concurrence pour répondre aux urgences sanitaires et à l'ambition, enfin à la nécessité notamment d'assurer la sécurité de l'approvisionnement dans le contexte de la COVID.
Oui. Alors, il y a deux grands volets. Le premier grand volet, c'est en matière de droit des ententes, où nous avons encore adopté dès la deuxième moitié du mois de mars un cadre exceptionnel et qui m'a conduit, avec l'accord du Collège, à signer une lettre de confort à l'Association des fournisseurs en médicaments génériques européens. Parce qu'à ce moment-là, et malheureusement c'est peut-être une situation que nous serons amenés à reconnaître, à connaître de nouveau, je veux dire, nous étions au pic d'utilisation des lits de soins intensifs et de réanimation dans l'Union européenne. Et vous savez, vous ne savez pas que ces lits, ce qui fait qu'ils sont rares et coûteux, qui nécessitent deux choses. Ils nécessitent des personnels qui ont une formation particulière, et ils nécessitent des médicaments extrêmement particuliers. Un d'entre eux, par exemple, une grande famille de médicaments sont des dérivés du curare qui permettent de paralyser légèrement les muscles qui permettent l'intubation lorsqu'on doit intuber pour ventiler artificiellement un malade. Or, ces médicaments, dans l'Union européenne, étaient en grande tension, et en réalité, si la courbe avait continué, nous étions très très près d'être en rupture. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est quelque chose qui est parfaitement interdit. Il fallait coordonner les productions de sorte que les productions soient allouées à certaines usines et à certaines zones géographiques, ce qui permettait de maximiser les volumes de production pendant une courte période. Et donc, nous avons mis en place un système avec une espèce de chambre de centralisation des données à la Commission, parce qu'évidemment, il n'était pas question que les entreprises aient accès à ces données et puissent s'en servir pour rentrer en collusion une fois la situation revenue à la norme. Voilà. Finalement, ça n'a pas été nécessaire, parce que, Dieu merci, la courbe s'est aplatie juste à temps. Mais nous étions en situation de le faire et nous avions déjà donné l'autorisation administrative. Le deuxième domaine, c'est le domaine des aides d'État. Dès la troisième semaine, dès le début du confinement, la Commission a adopté un encadrement temporaire. Cet encadrement temporaire, il a permis d'autoriser des volumes d'aide qui se montent à 3 000 milliards d'euros aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 25% du PIB européen. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a dépensé 3 000 milliards d'euros, hein. Ça veut dire qu'on a autorisé des aides à hauteur de 3 000 milliards d'euros, mais la très grande partie de ces aides sont des garanties sur des prêts. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que le prêt est remboursé, la garantie n'est pas tirée et en fait on a dépensé zéro. Et une partie de ces aides sont des aides en numéraire, des apports en capital. Alors là, ça c'est du vrai argent qui est déboursé des budgets publics. Et le problème que nous avons eu, c'est que la crise est globale, le virus a frappé partout, mais il a affecté le PIB des États membres de manière inégale en fonction de la structure des économies. Pour faire simple, si votre économie est très dépendante du tourisme, vous êtes beaucoup plus frappé, parce qu'il n'y a pas eu de tourisme depuis 6 mois. Donc les pays du Sud ont été plus frappés que les pays du Nord, mécaniquement. Leur exposition aux conséquences de la pandémie était plus importante. Il y a d'autres facteurs, la démographie par exemple. Enfin, le résultat de tout ça, c'est que un même impact, quelle que soit la façon dont vous avez géré la crise sanitaire, bien, moins bien, ce même impact, il est différent selon les États membres en fonction de la structure de l'économie. Et donc ça fragmente notre marché intérieur. Et puis la deuxième différence, c'est que la capacité de réaction des États membres est différente. Il y a ceux qui ont été très fortement impactés par la crise financière, qui commencent juste à s'en relever, et malheureusement, parfois, ils sont aussi très dépendants du tourisme, et donc ils ont été très durement touchés. D'autres qui ont eu des excédents depuis des années avaient la capacité de donner des subventions publiques, des vraies, en numéraire, en cash, à leur industrie beaucoup plus importante. On ne peut pas le leur reprocher, mais ça a contribué à fragmenter plus encore le marché. Et c'est la raison pour laquelle la présidente von der Leyen a décidé de lancer Next Generation EU et le plan de relance et la Recovery and Resilience Facility. C'est pour que solidairement, avec 750 milliards d'argent commun, remboursé par tous, on aide ceux qui étaient les plus affectés et avaient le moins les moyens de faire cette relance de l'économie. Parce qu'on a enfin compris, après 10 ans de crise financière, que c'est l'intérêt de tous, des riches, des pauvres, des nordistes, des sudistes, de ceux de l'Est et de ceux de l'Ouest. Les pays dont l'industrie est la plus puissante, ils exportent 70 à 80% de leur production dans l'Union européenne. Et il faut bien que l'économie soit à peu près viable dans les autres pays pour qu'on leur achète leurs produits. Donc c'est l'intérêt de tous. Et c'est l'intérêt de tous de relancer un cercle vertueux dans lequel on booste la relance, on booste la croissance, à la fois à court terme pour sortir de cette crise par le haut, en se désendettant, puisque ce sera de l'endettement public, mais pour le privé, ce sera du cash pour une large partie, et en s'alignant sur nos objectifs de long terme en matière de décarbonation de l'économie et en matière de transition numérique. Donc on a là D'abord, quelque chose de très important sur le plan symbolique et politique, c'est vraiment l'expression de la solidarité européenne. Certains pays s'endettent au prorata de leur richesse nationale dans l'Union, alors qu'ils vont toucher pas ou très peu de ce plan. Parce que ça l'intéresse tous. Et ça, quand même, après 10 ans un peu déprimants, moi, comme vous le savez peut-être, j'ai négocié des affaires financières. À l'époque, je n'étais pas à DG Concurrence. De manière très difficile avec certains États membres, de voir que finalement cette idée a prévalu, c'est quand même, quand on est fonctionnaire européen, quelque chose de formidable. Et que la Commission, l'ait proposé, c'est quelque chose qui peut nous rendre tous fiers.
Très bien. Merci. On est
Je vous
arrivé
remercie.
largement au-delà de notre temps, mais c'était passionnant. Merci infiniment, Olivier Gersan. On va diffuser ça bientôt et je vous tiens informé. Merci beaucoup de ces explications et puis de cette ouverture vers la solidarité européenne.
À bientôt.
Au
Au
revoir.
revoir.